Ok, merci. Ben, on va ouvrir la discussion, Laurent.
Ok, merci beaucoup. Je prends la proposition, ne connaissant rien au fond de mon sujet, mais je prends la proposition très au sérieux de venir présenter une socio-histoire dans un séminaire de sociologue. Alors j'ai deux questions qui portent sur la problématisation et trois sur la méthodologie. Première question, finalement, c'est j'aimerais en savoir plus sur pourquoi tu as choisi ce sujet. Alors, d'abord, d'un point de vue dans ta trajectoire de chercheur, d'abord, on te connaît plus, j'ai pas lu la totalité de ce qui apparaît sur Kern, mais un certain nombre. Je te connaissais plus comme un historien de la Troisième République. Ensuite, pourquoi cet aspect-là du programme du Père français, mais à d'autres. Voilà, donc c'est un effet d'opportunité, d'archives, machin, pourquoi pas aussi les essais nucléaires, pourquoi pas l'Algérie, d'Octobre, que sais-je, tu vois, le sujet est vaste. Tu t'expliques pas assez, je trouve, du choix de la jeunesse de ce projet dans ton travail. Et c'est déjà de la problématisation. Deuxième série de questions qui l'est encore plus. Pourquoi le choix du sujet, cette fois, en termes scientifiques proprement dit apporter sa petite pierre dans un ensemble machin, lequel d'ensemble précisément, j'ai pas perçu à travers ton exposé où tu te situes exactement, dans quel champ d'études tu te situes précisément. Tu parles d'un apport à la connaissance qui a insisté à plusieurs reprises de la population française et de la société française, mais au-delà de l'affirmation, j'aimerais que tu développes un petit peu ça, que tu problématises un petit peu plus, d'autant que cette société française. Bon, parce que c'est un exposé oral, c'est évoqué rapidement, mais du coup, elle est évoquée assez systématiquement comme un espèce de tout, un peu cohérent, et un côté un peu holiste. Or, les années 60 et 80 sont des années de très très grande fracture politique, donc nécessairement les clivages autour de ça, tant nationalement que localement, ont dû être vraiment, vraiment énormes, donc ça me manque aussi, cette problématisation-là, mais tu en parles, à mon sens, tellement peu que je me demande si c'est vraiment ça qui t'intéresse. Est-ce que c'est pas plutôt une histoire de l'État qui t'intéresse plus que de la société française. Ben voilà, j'ai manqué vraiment d'élaboration de la problématique à ce niveau-là. Les trois questions suivantes sont plus simples, elles sont plus méthodologiques, on va dire. La première, à la fois pour blaguer à moitié, mais c'est très sérieux en même temps, comment est-ce qu'on peut faire l'histoire d'un secret d'État quand une partie de la documentation nécessaire est soumise, bien sûr. Mais je pense que c'est pas mal de choses à dire là-dessus. Ce qui amène la question suivante, hein, c'est que du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être en permanence davantage dans une histoire des représentations en particulier, et des représentations en plus, on voit bien dans tous les extraits que tu as passés, les sources principales de la presse, de la télévision, de cinéma. Ce qui amène donc la dernière question, qui est, quand on fait de l'histoire très contemporaine, ce qui est... La connaissance de ta bibliographie est nouveau pour toi, d'aller jusqu'à l'immédiat présent. Du coup, tu vas trouver le grand avantage que nous avons de sociologues, c'est qu'on n'a pas que les archives qui nous parlent des morts, mais aussi la possibilité d'interviewer les vivants.
Oui.
Et donc, je n'ai pas entendu non plus cet aspect-là de ton programme de recherche.
Merci Laurent. Je vais essayer sauf si on prend d'autres questions, mais il y en a beaucoup là déjà, donc je pouvais essayer de répondre à quelques-unes.
On a encore quand même suffisamment de temps pour pas encore
écouter. Alors pourquoi ce sujet pour moi ? Il y a une forme de continuité que j'ai simplement mentionnée de manière très, très elliptique, qui est que j'ai commencé à travailler sur les complots, ça a été dit dans la présentation, donc il y a une dimension qui m'intéresse ici. Dans ce qu'on pourrait appeler une histoire du public. Le dernier programme en date que je coordonne, c'est une histoire de la transparence. Et je vais être peut-être ramassé en te répondant. Ce sujet, pour moi, sur le nucléaire militaire, permet de comprendre justement les limites et le mode de fonctionnement d'une société qui culturellement et politiquement est en train d'adopter la transparence comme valeur civique dominante. À partir de la fin des années 60 et tout au long de la période jusqu'à la fin des années 1990, on voit petit à petit la société politique française utiliser le mot de transparence ou le terme équivalent de droit à l'information, réforme des années 70, et en même temps, simultanément, cette société elle est marquée par une sorte d'exubérance dans les normes légales qui entoure le nucléaire et qui entoure le nucléaire militaire en particulier. C'est-à-dire qu'au moment où, eh bien, il y a ce phénomène-là, et on le repère y compris de manière géographique, parce qu'il y a des territoires qui ne sont pas régis de la même manière, tout simplement. Pas par les mêmes pratiques, pas par les mêmes acteurs, pas selon les mêmes normes. Et je trouve que ce sujet très contemporain, pour moi, là, au moment où j'y arrive, il me parle finalement des évolutions les plus récentes, de processus historiques que j'essayais de situer plus en amont, au XIXe siècle, mais des processus récents, ou des phases récentes de processus qui mènent à une société très paradoxale, très clivée, habitée à la fois par un discours sur la transparence, mais qui en même temps est une société qui tolère que 17 communes soient régies par le secret nucléaire militaire, ad vitam aeternam, tant que ça plaira au président de la République. Et ça, je pense qu'on n'en a pas l'équivalent auparavant, ni pour la transparence, ni pour cela. Donc j'essaie de m'expliquer un peu à chaud là-dessus. D'où le choix de cet aspect du programme nucléaire militaire. La guerre d'Algérie, le début du nucléaire militaire, fin de 4e République, dont, avant 1958 et jusqu'en 1960, c'est des choses relativement bien situées. La question du programme nucléaire civil a commencé à être étudiée avec des limitations que tu as évoquées tout de suite dans ta troisième série de questions. Donc je vais commencer par répondre à la troisième série, puis je reviendrai sur la deuxième si tu veux bien. Comment faire l'histoire d'un secret d'État? C'est pas la question ici, c'est la question de la révélation. Qu'est-ce qu'on révèle? Est-ce qu'on a les moyens de révéler quelque chose? Est-ce que notre fonction elle est là pour révéler quoi que ce soit? La question pour l'historien que je suis, c'est moins la question du secret que la question de la révélation, de la place de la révélation dans l'analyse historique. Est-ce qu'on a quelque chose à révéler, ou est-ce qu'on a à s'interroger sur les conditions de possibilité du secret dans un état donné, dans une société donnée? Alain de Verpe, voilà, j'emprunte en quelque sorte ces chaussures à Alain de Verpe. Et donc je pense qu'il y a à la fois des sources pour parler du secret d'État, et en même temps qu'il n'y a pas d'ambiguïté de ma part vis-à-vis de ce secret, de son contenu. Ça ne m'intéresse pas vraiment ici, sachant que les acteurs ont eu tendance à parler, et quelquefois même les acteurs qu'on attendait le moins... ils ont eu tendance à faire des confidences, y compris les généraux de l'armée de l'air, qui normalement auraient dû être vraiment les gardiens du secret jusqu'au tombeau, ont eu tendance à parler, et que cette histoire très contemporaine, elle peut effectivement se tourner vers des récits de vie. Alors des récits de vie qui sont compliqués, on a déjà envoyé quelques étudiants sur ces terrains-là, parce qu'il y a des mouvements dont Richard en parle aussi bien que moi, dont on pourrait tous parler autour de cette table, qui sont des mouvements à la fois d'acceptation du récit ou de l'interview et de pression a posteriori d'un entourage, qui est souvent un entourage d'anciens militaires, qui invite à revenir, à faire silence sur ce qui a été dit au préalable. Donc, il y a des choses qui sont relativement compliquées, auxquelles moi je m'étais heurté il y a des années vis-à-vis d'anciens militants communistes des années 30-50 qui avaient aussi intégré ces normes du secret de l'organisation. Alors c'était une organisation clandestine qui flirtait toujours plus ou moins avec la clandestinité. Là on est dans du secret légal, mais on a des phénomènes de socialisation par le secret qui rendent difficile quelquefois les récidives. Et enfin, j'essaie de répondre très rapidement à ta deuxième série de remarques. Alors, ce sujet-là, qu'est-ce qui signifie dans le champ d'études? Et finalement, c'est Nicolas qui a répondu à cette question en partie. Il y a un décentrage, un changement de focale qui est intervenu dans l'historiographie du nucléaire à partir des années 1990-2000. Et ce décentrage-là qui a conduit à certains historiens américains à faire ce qu'ils appellent « people's history », une histoire vue depuis les sociétés, etc. notamment dans le sud-ouest des États-Unis, dont le Nouveau-Mexique, mais pas que. Ce tournant-là, il l'a conduit aussi à poser des questions à d'autres sociétés en fonction de processus dits d'américanisation. Alors, par exemple, les ovnis, les perceptions de la modernité destructrice, ça a été discuté par des collègues allemands. Les premières rumeurs autour de l'atome, des extraterrestres, ça a été discuté comme des processus d'américanisation. Mais ça n'a pas été discuté en France. Ce qui fait que la France est un acteur, alors c'est vrai atypique, mais un acteur important de ce jeu nucléaire mondial. Mais l'historiographie française est restée rétive et habitée par cette historiographie officielle pendant très longtemps. Sans qu'on se l'explique toujours très bien. Alors il y a deux facteurs explicatifs que je peux mettre en avant. Il y a effectivement des normes d'accès aux sources documentaires qui ont longtemps prévalu, qui sont des normes de limitation, y compris pour le commissariat à l'énergie atomique et pour des collègues comme des collègues françaises ou américaines qui ont travaillé sur ce sujet. Je parlais de Gabrielle Hecht tout à l'heure. Elle le mentionne hein, dans son livre sur le rayonnement de la France, elle s'en explique très bien. Hein. Les archives qu'elle allait trouver, c'est des archives privées d'anciens responsables du CEA, ce n'est pas des archives du CEA. Bon. Donc il y a cette question-là. Et il y a, de mon point de vue, alors, le fait que ce silence maintenu, il est censé occulter des fractures dans la société française. Des fractures dans la société française. Il a une finalité qui me semble être... comment dire, politique au sens large, je ne sais pas, tu me diras si tu es d'accord avec ça, à savoir qu'on ne peut pas parler aujourd'hui des dissensions et des tensions que le nucléaire, y compris le nucléaire militaire, ont suscité en France sans remettre en cause finalement une image relativement consensuelle qui peut exister aujourd'hui, je dis bien relativement consensuelle. Alors, est-ce que ça relève d'une histoire de l'État? Est-ce que ça relève d'une histoire des fractures de la société française, y compris aujourd'hui? Je comprends ton hésitation. J'hésite moi-même. Je pense que la fonction très claire, là, c'est une fonction d'occultation. Et il faut bien voilà, le faire apparaître un moment ou un autre.
Samuel?
Merci pour la présentation. C'était riche et je pense à certains moments contradictoires où peut-être j'avais beaucoup d'informations et que c'est dur à gérer et je félicite l'intervenant d'avoir été d'une concision très forte et c'est qu'on saisit bien l'analyse mais peut-être que effectivement Jean a fait référence à plus, mais là il a commencé à en déranger plus. D'abord j'aime bien le recadrage de l'histoire du secret, l'histoire du public, l'histoire de la révélation. Ça c'est très bien. J'ai été gêné par une chose. D'abord il y a un côté hypothèse de travail qui est très bien, qui est très concis, qui met du côté des facteurs explicatifs une culture du secret, une culture militaire du secret. Et du côté de ce qu'il y a à exploiter, de ce qu'il y a à exploiter, c'est le rapport au territoire des gens qui y habitent. Et tout ça, c'est un cadre qui est un cadre plutôt général. Et tout ça, au début d'une recherche, dont on ne peut que profiler ce que ça va pouvoir donner, me semble-t-il. C'est-à-dire que il y a peut-être d'autres entrées que la culture du sucré, mais c'est votre objet, donc c'est très bien. Et les retombées de cette culture sur un territoire, vous dressez un panorama, une série historique qui est informée, hein, avec des articles de journaux, etc., mais avec quand même des points de flottement entre d'un côté la résignation et puis du coup une mobilisation post-hoc. Et un des éléments de réponse que vous avez donné là-dessus, c'est qu'on ne peut pas suivre ça. C'est un phénomène de changement de génération au niveau du territoire C'est pas simplement en suivant les retombées de ce, cette importation que l'on pourrait comprendre que. Deuxième chose, moi j'ai ma voiture qui est tombée, c'est pas une enquête sociologique, mais ma voiture qui est tombée en panne sur le plateau de Saint-Christol, j'ai passé 3 semaines. Et alors peut-être qu'il n'y a pas du développement de l'industrie militaro militaire sur Apt, mais quand on est sur le plateau de Saint-Christol, on voit qu'il y a une agriculture qui est assez performante sur la lavande. Donc l'idée que c'est des poches de misère, je résiste un peu. Troisième chose, mais de manière un peu provoque et un peu à un moment, ça c'est pas à prendre au sérieux. Mais quand il a été dit qu'on avait échoué à faire la alors qu'on patrimonialise tout, on ne patrimonialise pas ce territoire, et du coup on le laisse en déshérence. Il y a 2 ans, il y avait les journées du patrimoine, et il s'agissait de visiter le poste de commande de je ne pas pu y aller, je suis curieux, je suis frustré.
Mais tu pourras venir avec nous.
Alors,
oui.
Tu pourras venir parce qu'au mois d'avril, nous avons la chance au sein de l'Axe de partir voir le laboratoire souterrain à bas bruit qui est installé dans le pas de
l'air.
Oui.
Je te transmets les infos.
Un labo maintenant du CNRS.
Oui.
Et qui travaille sur des jauges d'instruments à bas bruit parce qu'il faut que ce soit. Il travaille aussi les séismes, la question des séismes, qui travaille l'astronomie, et qui travaille, moi je m'intéresse aux cartes, qui travaille sur l'hydrologie, qui est un problème environnemental. L'hydrologie karstique, qui est un problème environnemental, qui n'est pas négligeable. Donc, ça c'est des petits grains de sable. Hein. Mais ma vraie question, elle est que j'ai l'impression que vous avez un schéma d'entrée, que vous êtes entré par une sorte d'entonnoir pour maîtriser des questions qui sont plus larges. Mmh. Et d'ailleurs, vous faites très, très souvent référence, grâce aux discutants, vous êtes obligé de rentrer dans le comparatif. Je suis sûr que, que vous travaillez comme ça, c'est pas une critique. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui. Alors, sur le plateau de Saint-Christol, poche de misère ou pas, c'est une vraie question parce qu'il se la pose à la fin des années 50 et au début des années 60. C'est finalement dans le discours officiel à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, ça fait figure de territoire enclavé en train de se dépeupler avec une population faiblissante, donc on est dans tous ces discours de la Datar sur l'exode rural, etc., sur les hauts plateaux, montagneux, difficiles d'accès, voilà. Et donc la question qui se pose, c'est la question, y compris par les géographes ici même, hein, à l'université d'Aix, il y a toute une série de publications, enfin quelques publications, début des années 60, de géographie sur cette zone, qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Donc c'est l'agriculture et le tourisme. L'agriculture et le tourisme, tourisme qui est tourné vers les artistes, vers les intellectuels, etc. Donc il y a toute une série de choses. Bon, on voit de à quoi on fait référence et de qui on parle. Mais la perception officielle, le discours officiel sur, c'est bien. Il faut faire un effort particulier de rattrapage pour. Et puis tout d'un coup, il se retrouve propulsé dans une forme de modernité à laquelle il ne s'attendait absolument pas, et à laquelle ils vont essayer de se raccrocher. Ils ont essayé de se raccrocher à la fin des années 90. À la fin des années 90, c'est laissez-nous des militaires. Donc on laisse la Légion étrangère, on aimerait avoir une base d'hélicoptère. Voilà. Donc c'est vraiment le syndrome ville de garnison. Pour garder justement ce moteur aussi démographique. Donc la question de la déshérence, c'est eux-mêmes qui la formulent ainsi. Nous sommes abandonnés. Nous avons été abandonnés à partir des années 2000. C'est vraiment un discours de ville désindustrialisée. Très étonnant. Et donc dans ce dans ce désert organisé par le départ de l'armée, la fin de la force de frappe, mais voyons quelle drôle d'idée, etc. Le laboratoire souterrain bas bruit, l'arrivée du LSBB avec Georges Lesantz, avec les physiciens d'abord, puis les hydrogéologues et autres, fait figure d'un petit peu d'éclaircie dans un ciel morose. Mais c'est plus, voilà, c'est plus un espoir dans une région qui se sent elle-même comme en crise, appauvrie, laissée pour compte par Paris. À nouveau, c'est Paris, hein, c'est Chirac après De Gaulle. Hein, ils ne nous ont pas compris. Donc on est là. Et effectivement, ces réactions-là s'expliquent en fonction de ce que vous avez pointé. C'est vrai qu'on a affaire à des changements de génération. Des changements de génération et aussi des changements de population. La démographie de la région, elle est mesurée par un certain nombre d'études universitaires, et tout le monde s'accorde à dire que les anciens militaires restent. Il y a non seulement ces changements de génération qui interviennent dans les années 80 pour l'essentiel, mais aussi des changements de population, de type de résidents sur place. Et un certain nombre de militaires choisissent de rester sur place pour leur retraite, pour montrer que, du moins c'est une partie de leur motivation, je pense que les champs de lavande du plateau de Saint-Christol, ils sont aussi pour beaucoup, mais un certain nombre disent explicitement, on reste sur place, vous nous accusez de vous avoir choisi comme cible, on va rester sur place par solidarité, en quelque sorte. Donc, la population, les ambivalences se prospèrent sur ce terreau-là également.
Et est-ce que vous avez connaissance du stage de la recherche anthropologique de Bruno Berger et Malvé et Georges Rabhi sur le Rhodes, du bio, où il y a des données en Bougainville et Bougainville sur le monde?
Oui, c'est ça.
Alors, il y avait de chez Sarri.
Déjà, merci pour la grande qualité des échanges et des discussions hein, des uns et des autres. Juste une remarque et deux questions. Remarque sur l'intérêt pour cette histoire de la modernisation telle qu'elle est apportée dans ces territoires, ou telle qu'on la prétend être une modernisation, qui est soulignée par Frédéric et aussi par Nicolas, quoi. Mais qui est une modernité très ambiguë et très, très, très ambivalente. Parce que là, sur place, on amène quand même de la guerre et de l'horreur, en même temps que peut-être la fascination de la modernité est due au fait qu'elles vont arriver de nouvelles populations, donc démographiques s'enrichir, des infrastructures autour, etc. C'est des choses qu'on retrouve aussi sur les terrains franco-italiens sur lesquels on est, notamment du côté de l'Italie, sur les recherches qu'on mène sur les installations nucléaires et les territoires environnants, où on voit bien, dans le domaine du militaire civil, cette fascination pour l'arrivée de l'atome, l'énergie atomique, et tout, surtout des personnes qui viennent travailler de l'international, ou des grandes villes qui s'installent sur des territoires, souvent, la plupart du temps, ruraux. Donc, chose qu'on a retrouvée à Cadarache, chose qu'on retrouve aujourd'hui sur ITER, de quelque façon, le lycée international de Manance. Donc, tout ça, je pense que c'est un fil vraiment fondamental, qui n'est pas un fil d'historien, c'est un fil aussi de sociologue. Donc, il faudra peut-être aller plus loin sur cette question de travailler le lien entre modernisation, mais aussi en même temps. Fascination pour l'objet, mais horreur aussi possible de ce qui peut se passer, hein, par une catastrophe possible, ce qui est co-présent en même temps dans les populations. La question était sur un peu comment tu vas faire, c'était aussi une autre difficulté du côté des groupes franco-italiens pour essayer de tenir ensemble une histoire un peu internationale, si tu veux, hein, du nucléaire, évidemment, avec ce plateau d'Albion, c'est d'abord l'histoire international et pas uniquement national et local, et effectivement une histoire locale de l'impact de la présence d'un tel site sur place en lien avec les territoires environnants. Je me demande comment tu penses t'y prendre du point de vue à la fois des sources et du lien que tu peux faire entre ces deux aspects, qui n'est pas complètement simple. Et après, une dernière question sur le film documentaire que vous avez réalisé. Moi, je n'étais pas au courant, donc je découvre ça avec curiosité, pour savoir comment vous allez vous y prendre pour ce film. Est-ce que ça va être un film sur la recherche en train de se faire, comme il y en a eu d'autres ici, ou bien ça va être un film plutôt du côté des acteurs, et donc qui met un peu en retrait les chercheurs dans son travail. Donc comment vous entendez faire les choses, ou alors peut-être vous ne savez pas encore.
Tu veux alors vas-y.
Merci encore Frédéric Boyer pour cette présentation de ce passionnant programme en cours. Merci aussi à Charles Boulet et aux discutants pour vraiment ces échanges très riches. Vraiment, ce qui est passionnant, et comme le disait Laurent, pour un laboratoire qui prend vraiment au sérieux cette question, cette distinction ténue, aux limites fragiles entre une histoire du présent et une sociologie du passé. Alors du coup, bon, face à des sociologues, forcément, la question du récit, la question des populations locales, elle revient sur le tapis, et c'était la question finalement, quid de cette population civile locale. Vous avez mentionné tous les deux la difficulté à recueillir un récit de vie auprès de ces anciens militaires qui sont restés, qui sont les habitants du lieu. Et c'est vrai qu'on se dit, les fermiers, les habitants de ces fermiers, etc. Et on retrouverait peut-être des éléments moins connus que ce que tu nous as dit, parce qu'effectivement, cette histoire du secret, elle a fait beaucoup de bruit, que ce soit à travers l'opposition de la société civile, que ce soit à travers la question des croyances, etc., qu'on voit à travers les médias. Je trouve que là, on aurait des... Ce que tu nous as dit par ailleurs sur le sentiment d'abandon, le sentiment peut-être avant d'une fierté nationale, on sortira un petit peu des sentiers battus, au sens utile. Et c'est aussi la question de l'écriture. Est-ce qu'on part de là, de ce point 4, et du coup on revient sur ces questions d'héritage, de l'héritage local, oui, de l'héritage local, de cette entreprise militaire qui vient à un moment qui s'en va, en restant, etc., qui n'a jamais été un lieu déserté, même si on en a d'autres fois des gens de France. Qui est dans lui habité. Est-ce qu'on part de là, et me semble-t-il, c'est ce qui m'intéresse en tant que sociologue, et pour remonter à la grande histoire, j'allais dire, ou est-ce que tu crois, voilà.
Alors, il y a Célia qui voulait aussi rebondir.
Oui, un peu dans la boîte interne, je me suis beaucoup demandé, alors, je connais rien, absolument rien au sujet, déjà, je tiens à préciser ça. Et je me suis demandé à qui appartient ce sujet, en fait. Qui sont les individus qui revendiquent soit le nucléaire, soit le nucléaire militaire. Et donc, du coup, qui sont les acteurs qu'on a derrière et quel type d'argumentaire sont mobilisés? Est-ce que c'est antimilitariste? Est-ce que c'est écolo? Effectivement, qu'est-ce qu'on a, voilà, pour se représenter un petit peu mieux? Alors, j'ai compris que ça rejoignait un clivage gauche-droite. Puis ensuite, vous avez parlé d'une période dans les années 80 de dépolitisation, si j'ai bien compris. Et du coup, moi, je me questionnais sur comment attraper cette affaire de dépolitisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y met derrière? Est-ce que c'est un désintérêt de la part de l'espace public, du champ politique, mais il y a quand même des acteurs, alors, citoyens, de société civile, je ne sais pas comment on peut les appeler, comment vous les appelez. Mais en tout cas, là, je me suis demandé quels étaient les critères de cette dépolitisation et comment on en arrivait à dire qu'il y avait, alors qu'il y a toujours conflit, alors qu'il y a toujours controverse, est-ce que finalement ce n'est pas dans l'interaction aussi, et ça rejoint un peu la question qui a été posée sur l'identification de l'ennemi, de l'adversaire. Effectivement, l'État va avoir son propre argumentaire, et puis les acteurs de terrain vont avoir, et du coup, vont pas identifier les mêmes ennemis et les mêmes adversaires. Donc ça, c'était la première question, peut-être, qui nous amène à réfléchir sur les propriétés sociales, les propriétés, les appartenances des individus. Qu'est-ce qu'ils revendiquent aussi, est-ce que c'est une identité régionale, en tant que... Enfin, voilà, je pense que ça peut être un fil intéressant à tirer, et savoir si vous aviez des éléments sur ça. Et puis aussi, sur ce travail, du coup, qui est engagé avec du côté documentaire, du côté réalisateur, vous avez beaucoup... vous avez parlé des points communs, et du coup, peut-être pour aller plus loin, quelles sont, du coup, les divergences que vous pouvez avoir, notamment parce qu'en fait, c'est une réflexion qu'on a un petit peu entamée, parce qu'on travaille... On va travailler avec des photographes qui mettent en image la question de la migration, qui ont un certain regard. Et c'est vrai qu'en étant chercheur, c'est vrai que le côté sujet d'actualité, chaud, justement pris dans des controverses politiques, où il faut se positionner, là où les chercheurs ne sont pas forcément inscrits dans ces controverses-là, en tout cas ne posent pas les débats de la même manière. Moi, je me suis demandé voilà, comment vous allez aussi concilier des regards différents, de prise de position, de regard. Et c'est vraiment cette question du regard qu'on discutait, soit sur la migration, ou en tout cas des sujets d'actualité très très chauds comme ça. Puisqu'on part souvent du principe, et aussi puisque au-delà de la recherche, il y a aussi l'enseignement, et en cours, nous, on travaille sur la sociologie visuelle, et on demande aux étudiants de produire des images. Et avec ces étudiants qui n'arrêtent pas de nous dire, mais moi, je voudrais attraper une image qui dit tout. Et nous, leur rappeler qu'une image, elle ne dit pas grand-chose, c'est aussi quel commentaire, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en dit de ces images-là. Donc effectivement, vous attrapez les choses avec de l'image, avec besoin d'un discours et de construire un discours. Et c'est là, et du son, oui, pardon. Évidemment, un objet que j'étais encore sur le truc de la photographie, et du son, évidemment. Donc voilà, qu'est-ce qu'on choisit, quelle sélection, et donc peut-être... au lieu de marquer les points communs, quelles sont les divergences du coup et les endroits où ça...
Ah, les divergences, si je peux juste rebondir, oui. Sur la partie, parce que du coup ça traite aussi la question de savoir si les vivants, y a des vivants qui vont pouvoir nous dire des choses, et on pensait notamment à Valéry Giscard d'Estaing, qui est le premier à avoir ouvert la base aux caméras, vraiment. Alors peut-être qu'il y a eu des images qui ont été produites par le département audiovisuel des armées. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On n'a pas connaissance de ça, mais on est en train de chercher auprès de CPAD, évidemment. Mais en tout cas, lui, c'est le seul à avoir, c'est le premier. Et effectivement, dans une période où ce désir de transparence, en tout cas, lui, il l'intègre. Et en tout cas, il fait venir les caméras dans un dispositif spécial. Et il y a une retransmission qui va ensuite être réexploitée jusqu'à aujourd'hui. Les images qu'on connaît d'Albion sont des images qui ont été tournées à partir de 1976, je crois que c'est en janvier ou décembre 1976. Par Giscard, qui est autorisé, je crois que c'est Neptune, hein, c'est entre le salon de l'Élysée et ici, enfin, et le plateau. Bon, et ça va être recolorisé dans toutes les couleurs, rouge, bleu, jaune, sépia. Et en fait, ce sont les seules images. Donc on pense qu'il y en a eu d'autres. Donc cette question de l'image, elle se pose aussi d'abord, à mon avis, dans les termes de l'archive. Parce que pour parler du regard, moi je pense que le vrai regard là-dessus, il est quand même lié à ce que la fabrication de l'image au moment de cette histoire, elle est finie cette histoire. Alors elle a des continuités aujourd'hui, on va essayer de les récupérer, de les toucher du doigt, mais la question de l'image, elle est posée par la question de la télé elle-même. C'est elle qui était censée rendre compte de ce qui se passait, et elle était aux ordres. Donc ce regard, il est d'abord là-dessus pour moi. On n'a pas encore eu le temps de se disputer, ça va probablement venir. Et je vous rassure une chose, c'est que effectivement les projets, c'est long. On n'a pas encore commencé réellement le travail. La question de la place de l'historien dans un film m'a été portée à ma connaissance aujourd'hui, parce que je n'en savais rien, qu'il y avait eu un film sur le sujet. C'est une question que j'avais posée à Frédéric, comment écrire ? Et moi, je trouvais que c'était intéressant. Par ailleurs, au-delà du fait que ça rend l'historien tangible, c'est quelqu'un qui travaille, il y a toute une mise en scène qui était intéressante, de rendre à l'historien, au chercheur, ce qu'il fait, de montrer ce qu'il fait, je trouve que c'était beau. Ensuite, la question, à mon avis, c'est une question de récit. Vous savez, comment est-ce qu'on arrive à trouver des passerelles ? Tout à l'heure, il m'a semblé que c'était la passerelle. Comment, de ces sources disparates, on arrive à... je pense que le commentaire, donc c'est pour ça que le son est important, le commentaire, c'est la voix du... Enfin, le récit, la narration, c'est Frédéric, enfin, c'est l'œil de Frédéric. Moi, je vais l'accompagner, si vous voulez, sur la question pour que ce soit fluide, pour qu'on soit dans des rythmiques. Un film, c'est de la musique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence, il y a de la connaissance, il y a de l'histoire, mais c'est de la musique. C'est-à-dire que les temps de repos, les temps de... Enfin, moi, j'estime mon travail assez technique, pour le coup, et pas dans ces termes-là de narration, au-delà de la forme. Alors, je ne sais pas si, pour l'instant, oui ou non, on va faire comme le film que je n'ai pas vu, donc, de savoir s'il y aura un historien dans le film, un film dans le film, qui peut être une option intéressante. Mais moi, j'ai peur que ça vampirise déjà une partie du sujet qui est déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, est dense, très dense. Il y a 5 parties. Moi, je ne sais pas s'il n'y en a pas une de trop. À ce stade, c'est un peu tôt. Il y a plein de questions qui s'arbitrent en montage. Et du coup, il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Sinon, que je partage des questions et que je vous remercie, elles sont pertinentes.
Frédéric parle d'archéologie de la guerre froide. Mmh. Donc, il y a cette question un petit peu de la stratification. C'est une chose qui est intéressante aussi. À montrer visuellement, par des plans, par une piste, c'est dans le papier.
Oui, j'ai vu.
Il y avait deux choses, si je peux, très vite. C'est une des questions, ta première question, Cesare. Comment tenir ensemble une histoire localisée ou une analyse localisée et une histoire comparatiste à spectre très large, international, puisque c'est quand même un problème d'abord international. C'est une vraie difficulté parce qu'on arrive avec un déficit scientifique relatif, nous, de notre côté. On n'arrive pas bien à tenir, je dirais, enfin, pour le moment, moi j'ai du mal à tenir tout ensemble, ce qui fait que je vais fort dans le localisé parce qu'il fait défaut. J'ai pas de point de comparaison français, il faut bien que j'essaye de bâtir quelque chose pour dire, ah, bon, allez, maintenant, avec le Nouveau-Mexique, je vois, ou avec la base de sous-marins nucléaires américains en Écosse, ah oui, je vois que... mais là, ça fait défaut, tandis que dans d'autres pays, on l'a déjà, sous une forme ou une autre, y compris des études très fines, comme celles qui existent pour la société japonaise, des choses assez remarquables. Donc le déséquilibre initial, il est évident. Je marche beaucoup sur un pied pour le moment, et heureusement Richard de temps en temps me tire. Il y a quand même la guerre froide, c'est en dehors de la Provence, ça existait. Ça,
je
me
permets, c'est des travaux qui ont été faits il n'y a pas très longtemps sur l'île Long en Bretagne.
Oui.
Peut-être permettre de commencer franco-française.
Commencer à échafauder des modèles plus généraux. Et puis, il y a cette question soulevée par Sylvie. Qu'est-ce qui peut servir de point de départ? Est-ce que des récits, des témoignages de gens, enfin de membres de ces populations civiles, peuvent arriver à, d'une certaine manière, à arrimer le lecteur ou le spectateur à cette histoire? Il me semble que oui, c'est une des possibilités existantes, dans la mesure où en 1965, au moment où les choses sont annoncées, on voit se fonctionner de manière un peu catastrophique ou un peu anormale une forme de démocratie paysanne à l'échelle municipale, où les conseils municipaux prennent position pour contre, où des associations sillonnent les campagnes et les villages. Et donc, ça peut servir de point d'ancrage, je dirais, pour une recherche de souvenirs, d'impressions, de témoignages, que ce point de départ-là, qu'on a documenté par ailleurs. Parce que, comme historien pour les récits de vie, j'aime en général bien pouvoir arriver avec des détails suffisamment précis pour que le souvenir prenne son essor. Donc je pense que cette question de la démocratie rurale au milieu des années 60, face à une certaine forme d'État modernisateur, elle peut être une porte d'entrée, y compris pour des souvenirs d'enfants. J'en parlais avec d'anciens militants communistes qui me racontaient que les norias de camions qui empruntaient la route, on a fait des souvenirs assez bruts. Je pense que ça peut être une entrée. Est-ce que c'est l'entrée qu'on va choisir ou pas? Je ne sais pas encore. Mais merci en tout cas.
Voilà. Encore deux questions, Raymond et puis Marc.
Oui,
Et puis on finit par Pierre.
C'est à moi?
Oui.
Oui, Raymond Mattei, j'ai travaillé à la faculté de sciences Saint-Charles à Marseille. Donc une question. Est-ce que vous avez pu étudier les rapports entre les installations plateau d'Albion et les labos de recherche universitaires? Je pense notamment à la physique nucléaire, mais aussi à la chimie et à la biologie à Marseille, et surtout à Saclay-Orsay. Je sais que c'est difficile de faire ce travail, parce que c'est confidentiel des classes. Aussi, pour les labos, le CIRS. Est-ce que vous avez pu l'aborder ce sujet?
On va peut-être enchaîner les questions pour finir, peut-être.
Oui, j'ai eu l'occasion d'étudier de nombreux camps militaires qui ont servi à de l'internement de masse, notamment pendant la guerre d'Algérie, notamment le camp de l'Arzac. Et par rapport aux questions qui ont été soulevées sur la manière de faire de la sociologie sur des événements historiques relativement récents, j'avais rencontré là des difficultés toutes particulières, sans doute liées à la dimension du secret. Un secret qui n'est pas totalement secret, parce que dans ces camps d'internement, il y a des gens qui viennent, qui vont, des familles, des prisonniers qui arrivent, d'autres qui repartent, du personnel. Donc le secret est très difficile à maintenir, hein. C'est un secret artificiel, toujours un peu en suspens. Aussi le fait que ces activités, et c'est la même chose pour le plateau d'avion, s'interrompent au jour. Et donc il y a une sorte de pic d'activité sur ce plateau, qui est quand même assez peu fréquenté, avant la vague de tourisme sur le plateau de Lozère. La population en tire un bénéfice économique important, parce qu'il faut nourrir plusieurs milliers de personnes, à la fois internées et non du personnel. Et quand on interroge des gens dans les petits villages environnants, à Nantes par exemple, sans eux pour la fin, il y a un phénomène de vacances de la mémoire, ou alors de confusion mémorielle. On se souvient de choses mais qui ne correspondent pas. On mélange. Alors il y a les plus vieux se souviennent du fait que le camp de Larzac avait des prisonniers de guerre allemands, près de 10 000, dont beaucoup sont morts sur place en 1946, mais ne se souvenaient absolument pas du fait qu'on avait interné des félagas, des gens de FLN, près de 15 000 sont passés par là pendant la durée de la guerre d'Algérie. On est juste à côté, ici, là, à quelques centaines de mètres, d'un des plus grands camps d'épuration de l'histoire française, le camp de Saint-Mille, qui est un parc, la direction des parcs et jardins d'Aix-en-Provence. Et j'ai enquêté aussi sur ce camp, dans les mêmes conditions, levé de la loi des 120 ans, sur dérogation, camp absolument inconnu de la population. Quand vous parlez du camp d'Aix-en-Provence, tout le monde se tourne vers Aix-en-Mille, et pas du tout vers le camp de Saint-Mitre, qui est pourtant le plus grand camp d'épuration. Près de 4000 personnes sont internées pendant 18 mois, dans des conditions très difficiles. Et j'ai eu l'occasion de faire le tour des directions municipales, de rencontrer des riverains, etc. Personne n'a jamais entendu parler de ce camp, alors que les prisonniers allemands qui y ont été ont réparé les maisons, que toute une série de populations travaillaient comme gardiens du camp, des surveillances, etc. Donc il y avait là encore toute une activité, et la mémoire est totalement absente. Et ça me fait penser un petit peu à des formes de pathologie mémorielle qu'on trouve dans les cas de disparition politique. Didier Bigot et Radanil Bekovic ont travaillé pas mal là-dessus, sur des cas d'enlèvement, de gens qui ne reviennent jamais. Donc on suppose qu'ils sont morts, à raison le plus souvent, mais dont l'absence du retour ou de la trace du décès crée une sorte de poche d'encryptage de la mémoire qui rend le travail du sociologue et de l'historien absolument infernal, parce que il y a une sorte de présence-absence, de fordat freudien, où on ne sait pas si la chose s'est vraiment passée, si les gens ont vraiment existé, et plus le temps passe, les confusions sont possibles. On mélange, on ne sait plus, les acteurs qui ont vécu à l'époque ne se souviennent pas exactement. Enfin, là, vous êtes vraiment sur un dossier assez compliqué, parce que le pire, c'est souvent quand les gens se souviennent, parce qu'ils ne se souviennent pas de la bonne chose. Donc on peut prendre pour argent comptant quelque chose qui est en fait une construction pure et simple. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude de faire avec... y compris avec ces souvenirs artificiels, reconstruits par des bribes attrapées à droite et à gauche.
Merci.
Peut-être on va enchaîner avec Pierre, et puis comme ça on clôturera après.
Merci beaucoup, et pour les réactions que vous avez apportées, on apprend énormément de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, y compris des choses qui viennent en désaccord avec les choses que je croyais, du coup, sur la présentation, pour voir à côté ce marché commun, à côté de mes bons ou pas, et on pourra le faire. Juste quelques mots. Une remarque sur la chèvre piquée, qui est une jolie formule, mais juste pour info, c'est quand même la chèvre piquée pour toutes les installations nucléaires. Alors, vous êtes lanceur de missiles, vous allez recevoir les missiles des autres, mais vous êtes une usine nucléaire, vous allez recevoir les missiles des autres. Donc, de ce point de vue, je pense que. Et c'est double piqué. Là, comme ailleurs, c'est-à-dire vous avez la menace d'attaque et vous avez le risque industriel qui reste là, y compris à ce moment-là, parce que les têtes, il faut les changer, il faut les remettre en état, et du coup, il faut faire arriver des trucs qui vont peut-être péter avant d'arriver au bon endroit. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Moi, j'ai beaucoup aimé réfléchir avec toi et avec vous aux questions de secret qui ne sont pas complètement les miennes d'ordinaire. Alors je rajoute une piste travaillée que vous n'avez pas évoquée, mais peut-être que vous l'avez en tête, peut-être qu'elle n'est pas pertinente, c'est de réfléchir aux conditions de création de ce qu'est la dissuasion. Comment on fait on peut penser à un moment donné qu'on va avoir un machin qui nous laisse tranquille, qui va être bien placé au bon endroit, etc. Ben non, déjà l'endroit c'était pas super, on savait bien que mettre des missiles en fixe c'était la pire idée, que c'était bien mieux de les mettre à la mer, et donc on a à la même époque des discussions sur les sous-marins, sur d'autres solutions. Et je pense que cette dissuasion, elle n'est pas facile à mettre en place, pas facile à faire prendre au sérieux, et que du coup, peut-être que le rôle de l'image, bah, c'est ça, c'est faire croire à tout le monde que c'est vraiment, vraiment, ça va marcher, et peut-être que le secret, qui n'est jamais vraiment complètement secret, c'est peut-être une manière de faire penser que ça va vraiment marcher, ça va vraiment nous protéger. Alors, je ne sais pas, c'est une piste que, il me semblerait peut-être mérité d'être quand même d'être exploré. Alors ça marche pendant un temps, parce qu'à mon sens, ce qui se passe avec les années 70, c'est que c'est bon, ça va, on a tous compris que la dissuasion fonctionne, et du coup, il va y avoir d'autres choses possibles, la dépolitisation, je me demande si c'est pas une repolitisation de l'objet nucléaire sur autre chose. Si on la situe dans les années 70, c'est, ah oui, mais c'est quoi le nucléaire des années 70? C'est le programme électronucléaire, et pas le programme militaire tellement. Et donc, c'est une nouvelle mobilisation nucléaire civile pour la guerre économique, et qui n'est pas moins dangereux, qui pose le même problème, et qui peut-être fait qu'on ordonne politiquement la chose de façon différente. Alors, une CGT qui est extrêmement pro-nucléaire, on a un certain nombre d'éléments qui se jouent peut-être à ces moments-là de façon différente. Mais bon, des pistes que des questions. Non,
c'est intéressant. Oui. Oui, c'est passionnant. Alors la chèvre au piquet, oui, ils le revendiquent eux-mêmes, évidemment, ce ne sont pas les seuls à être chèvre au piquet, on est d'accord. En ce qui concerne dépolitisation, repolitisation, en partie, oui, je pense que c'est pas un hasard si c'est Pierre Messmer qui fait les deux. Il fait à la fois le nucléaire.
J'ai été irradié, je ne vais pas être le seul, merde.
Ça suffit. Et puis, il y a peut-être aussi ce rêve secret qui habite, là pour le coup, de la CGT avec moi. Ce qui serait... en tout cas, il le revendique jusqu'au bout. Il revendique les deux jusqu'au bout. On trouvait des lettres de lui, ou ses mémoires, où il sait à la fois « J'ai fait un bon choix, c'était Albion qui le conteste aujourd'hui ». Et c'est vrai qu'au moment où il le dit, donc au début des années 90 ou au début des années 2000, silence radio sur ce sujet, et j'ai fait électronucléaire, et qui le conteste aujourd'hui, franchement, en dehors de quelques poignées d'écologistes donc je pense que là, oui, il y a quelque chose qui se joue. Est-ce que ça se joue en termes de dépolitisation, repolitisation autour d'un autre objet? Pourquoi pas.
Je sais qu'il reste très peu de temps, Tolé, peut-être en deux minutes, si c'est possible de répondre, peut-être.
Oui. Alors, pour la question des camps et du fonctionnement des camps, la question du secret qui joue à plusieurs échelles à l'intérieur de l'ensemble, du premier groupement de missiles stratégiques, je pense qu'il y a. Alors du côté des populations civiles, les bénéfices, ça c'est certain, on retrouve des phénomènes avoisinants. On retrouve à mon avis aussi des phénomènes de confusion dans une durée qui est en plus marquée par l'absence de guerre. C'est quand même une guerre sans combat. Alors on sait bien, nous, a posteriori, qu'il y a eu des moments qui sont des moments... Voilà, 1981, on sait bien que le sous-marin soviétique dans la rade de Toulon... On se doute que il y a des moments comme ça où on imagine, mais face aux anciens acteurs, moi, les anciens acteurs avec qui j'ai pu échanger, c'est plutôt on n'a jamais rien eu, il ne s'est jamais rien passé, le risque, il n'y a jamais eu d'incident, il n'y a jamais eu un seul camion qui a crevé avec une tête. Hein, en 25 ans, ça n'arrive pas.
C'est la France,
exact.
L'image s'arrête. Et...
Voilà, c'est ça, c'est merveilleux. Il n'y avait pas de neige ni de verglas, pas eu un blessé. Donc pas un seul accident, pas un seul problème, etc. Donc on se confronte à des difficultés du même ordre. En revanche, du côté des laboratoires, là oui, à mon avis, il y a une piste tout à fait à creuser, d'autant qu'en dehors des laboratoires de recherche CNRS qui s'implantent, dont on favorise le développement dans la région, il y a aussi des phénomènes de tension entre chercheurs, et très nettement autour de la mesure de la radioactivité. Dès la fin des années 50 et du début des années 60, il y a des professeurs de médecine qui sont en ligne contre Perrin au commissariat à l'énergie atomique, avec des appuis politiques de part et d'autre. Et très clairement, Jacques Roux, pour ne pas le nommer, qui est d'abord à Lyon et qui après se fait muter à Marseille, Jacques Roux, qui est le grand homme de la surveillance des eaux de la Durance et de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Marseille, il est appuyé par Gaston Defer, et il est appuyé par Gaston Defer, y compris dans des combats contre des projets proposés par Perrin au CEA, comme des projets d'immersion des déchets radioactifs de Marcoule au large d'Antibes, qui échoue en 1960.
Perrin, c'est l'homme qui dit l'histoire du nuage, là, en 86, le nuage radioactif.
Donc là, il y a des phénomènes de légitimité scientifique.
Même pour l'image, par exemple, les personnels qui ont participé à la reconversion des sites, qui sont venus arraser les sites, il n'y a même pas une vingtaine d'années.
Oui, c'est ça.
Il y a une vingtaine d'années, ça peut être des personnages à rattraper, et puis éventuellement à interroger, à affirmer.
Non, mais merci beaucoup, je suis désolée, je pense au train de Richard. Merci à vous quatre, parce que les discussions étaient particulièrement intéressantes.